Africa.
La maraboutique de Manu Dibango sur Africa Radio avec Robert Brazza.
Mara, boutique du dimanche matin. Tito, notre Bastille, on la prend comment?
Musicalement, s'il vous plaît, avec quelqu'un qui a écouté la première partie sur nos amis les Brûlés et qui lui la prenait avec des gestes de percussionniste.
Voilà, donc de temps en temps, il y a la minute de l'inspecteur.
Eh oui,
hein, il se commet. Et il me dit, il vient de rentrer de Bordeaux dans une campagne. Combien d'hectares?
Combien d'hectares?
4.
4 hectares. 4
hectares, ouais. T'as le temps de te promener là-bas.
Oh oui. Hein? Tu peux même t'y perdre.
On peut même s'y perdre. Alors, oui. Bordeaux, parce que quand on dit, on peut même préciser le lieu, hein.
C'est un lieu de famille.
D'accord, très bien.
C'est quand même
de méditation.
Une heure de Bordeaux quand même.
Et il y fait bon vivre.
Oui, c'est le peu qu'on puisse dire. Faut pas dire plus.
Donc ça t'a fait du bien.
C'était le but.
Eh bien maintenant on te ramène vers un passé que nous partageons avec les Brûlés, comme tu dis.
Eh oui,
les têtes brûlées que nous avons.
Ah oui, vous m'avez fait connaître ce monsieur.
Micro.
Il y a une internationale qui nous sépare.
Ah. Alors il parlait effectivement.
Grâce à vous, j'ai pu le voir.
Il parlait effectivement en live de. Ben voilà, dans les couloirs, on se croise de temps en temps avec Gauze qui est passé nous redéposer en tout cas des victuailles et des nouvelles.
Oui.
Mais on écoutait les Brûlés en première partie d'émission de Amanou. Et quand on dit les Brûlés, les gens ont souvent l'image du film qu'on a évoqué, celui
Claire Denis, mais ils n'ont pas en image ce qui se faisait derrière dans la cuisine. Il y avait un des cuisiniers qui s'appelait l'inspecteur Makossa, qui a œuvré énormément lors du passage des têtes brûlées en France à cette époque-là. C'était les années 80, c'est ça, hein?
Tout à fait, c'est la fin des années 80.
Approche-toi du micro.
87 pour être plus précis.
Comment ça s'est passé alors? Parce que avant que vous fassiez le film, d'abord, qui a eu l'idée de faire le film?
Ah non, le film, ça, c'est une idée de Claire Denis. Hein.
Mmh.
Rappelons ici un peu que Claire Denis est née au Cameroun, à l'époque coloniale, que son père était un administrateur colonial, et dès qu'elle était à la recherche, en fait, d'un sujet, parce que si vous voyez son premier film Chocolat, il y a une...
Avec des bancolés.
Oui, avec des bancolés, mais c'est la première fois que des bancolés ont un grand rôle dans un film, c'est pas compliqué.
C'est la deuxième fois, parce que la première fois, c'était avec Josiane Balasco, Les Keufs.
C'est après, ça.
Ah, les queues,
non, les queues frais. Ah ouais, c'est bon, il a eu les deux.
Bon, Claire Denis est née au Cameroun avant les indépendances, à l'époque coloniale. Donc si vous regardez Chocolat, il y a une scène ou deux, très cryptée, où vous voyez une réunion de l'UPC. Elle n'est pas expliquée, elle n'est pas dite. Mais il y a une ou deux secondes comme ça, où vous ne me voyez pas, j'apparais, je suis écrasé par la lumière. Donc cette histoire-là, elle a eu quelques problèmes à faire accepter ça au gobierno. Et par contre, lorsqu'elle a eu l'idée, lorsque les têtes brûlées sont arrivées ici, bon, mais c'était plus simple pour faire ce qu'on appelle, je sais pas, il va nous dire, Brazza, ça se dit encore, c'était un road movie. C'est man neurone.
Bah oui.
C'est pas ce mot, c'est dit encore, voilà.
Ah ben si, c'est le cas, parce que le film, alors on est vraiment, ben, je vais faire un clin d'œil, ou je sais pas comment l'appeler, on est vraiment à bout de souffle quand on sort de là, parce qu'on découvre en fait les Brûlés, et on a l'impression, de Amanou, qu'on est embarqué avec eux. Sur
voilà, une aventure extraordinaire d'ailleurs, de les voir, quand nous autres qui on était désespérés de ne pas voir un vrai groupe, en tout cas venant du Cameroun, et qui faisait l'unanimité des deux bords, quoi. Autant les Africains, autant les Occidentaux, et qui avait quelque chose d'original. C'est cette histoire de. Que les Noirs américains avaient les peintures, tu vois.
Le fameux groupe Kiss, oh, dont
voilà.
On parlait beaucoup.
Donc eux, ils avaient ça, et puis ils avaient une musique rock, mais rock africain, quoi, et très électrique, et en même temps, il y avait plein de symboles en eux, quoi. Donc ils suscitaient une curiosité saine, parce que il y avait beaucoup de talent dedans.
Beaucoup de talent, ça, beaucoup de fugues. Est-ce qu'on peut dire que c'était vraiment la définition des électrons libres? Parce que nous, quand on regardait les Brûlés, dans une famille qui, au pays de Marien, connaît le marxisme, le léninisme, on n'est pas forcément pour les looks de Zanzibar à Honda et leur ami, un spectacle.
Non, ça, c'est une idée de Honda Jean-Marie. Il faut le lui reconnaître. Et il faut savoir d'abord, Anda est peintre avant d'être musicien. Il a fait une école de publicité.
Anda étant le trompettiste.
Le trompettiste.
Voilà. Voilà. Il a repris la peinture même après les brûlés.
Oui, mais c'est lui qui a mis tout ce monde ensemble. Ces gens ont habité ensemble pendant 2 ans et demi, 3 ans, comme tu prépares une grande équipe de football. Et donc ça, c'était leur première sortie. Ce qui a favorisé l'affaire pour Claire Denis, c'était qu'elle a trouvé un ou deux producteurs français, là, ils sont morts d'ailleurs après le film, c'est un peu étrange, qui ont accepté de financer cette histoire-là, parce qu'ils ne s'en sont pas remis eux financés.
Zanzibar aussi d'ailleurs.
Zanzibar est mort, effectivement, dès qu'on a fini de monter.
Très jeune.
Très jeune, bon, on en reparlera si vous voulez, mais c'était que cette histoire, effectivement, du rock à l'africaine, c'est une histoire de mesure, mais ça, Dibango peut expliquer ça mieux que moi. C'est qu'il y a su ce qu'ils ont pris de musique qu'on jouait traditionnellement au balafon.
Il a transposé le jeu de balafon au guitare.
Guitare. Sauf que là, comme il le dit le guitare, ils ont bousculé la mesure. Ils ont ajouté, dit Bongo va dire qu'ils vont passer d'une mesure à un quart. Et ça, ça a tout changé. Maintenant, si tu ajoutes la musique des langues africaines, je pense que ça aussi c'était important. Sur
et le rythme.
Le rythme qui est vraiment assez déroutant.
Le Bikoussi, comme on appelle. Le Bikoussi ne sera plus jamais le même.
Il s'est réassagi. Si vous écoutez, on est revenu au Bikoussi d'avant. Comme quoi, c'était juste, on va dire, une galaxie qui a apparu, qui a disparu, hors jeu du Bikoussi traditionnel. Mais une chose qui est restée quand même, c'est que les thèmes qu'on a mis dans le Bikoussi sont devenus, vous appelez ça des thèmes urbains. Donc, il y a deux inventions, effectivement. Prendre une musique du village et lui donner une mesure, toi tu vas dire une couleur rock, ça c'était une chose, mais garder la langue, y compris en France aux États-Unis, il fallait le faire.
Et alors les réactions à l'époque de Amanou, parce que c'est une chose pour nous qui sommes au collège, de voir les brûlés qui s'habillent comme ils veulent, qui mettent des peintures, mais pour les puristes du Bikoussi, ça n'a pas dû être simple.
Je suis content que je les ai découverts, moi, ici, à l'époque où Jacques Lang venait d'ouvrir les théâtres, la culture, en fait, au tiers-monde. Et donc, et c'est en même temps l'époque de Touré Kounda, de Mori Kanté, de Salif Keïta. C'est l'époque où Tonton est aux manettes et où on ouvre une petite porte, je dirais une fenêtre parce qu'elle s'est fermée entre depuis, aux apports africains, ici en Europe et notamment ici en France. Et donc, eux, ils arrivaient au moment où, en fait, tout le monde était disponible, le public était là, les théâtres étaient là, les organisateurs, enfin, tout était là, les télévisions et tout ça, Claire Denis, entre autres, parce qu'elle a fait beaucoup de films par la suite, elle continue à faire des films et puis des grands films. Donc, c'était une époque d'or, et c'était une époque, je dirais que ces gars-là, c'était comme des E.T. Ils sont venus, ils ont délivré leur message, ils sont partis, parce que depuis, c'est fini, quoi.
Et puis, c'était dur aussi de survivre à la touche de Zanzibar. Parce que de toute façon, on parle d'un véritable génie, de quelqu'un qui, au milieu d'Atini, Tino et puis d'Anda, voilà, avait ce don et cette touche incroyable, la couleur.
Oui, il avait tout ça. Je ne peux pas dire plus. Mais ces gens habitaient ensemble, on s'est arrangé pendant 1 an et demi ou 2 ans.
L'époque de Mamadou également, hein?
Oui, mais ça, tu pourrais expliquer ça mieux que moi. C'est l'époque où j'ai quitté Mamadou, il a très mal vécu ça, moi aussi.
Oui, mais enfin, c'est l'époque où lui aussi était sur le marché, je veux dire, c'était une époque d'or, quoi.
Reza Sega débarque, on leur propose de jouer le 14 juillet sur la place de Beaubourg.
Waouh, quand même. On ne peut pas rêver mieux comme exposition.
Qu'est-ce que tu veux faire? Il faut expliquer aux gens ce qu'est la place de Beaubourg le 14 juillet.
Voilà.
Si tu vois le film, ça ouvre là-dessus.
Ouais.
Je ne peux pas dire que ça arrive encore, mais là, on en a raison, effectivement. Il y a eu un groupe de têtes brûlées avec Zanzibar et un autre après Zanzibar. Et là, tu as raison, ce n'est pas la même chose du tout.
La magie, thrill is gone, comme on dit, la magie était partie.
Je n'irai pas jusque-là, mais tu es un musicien, tu as plus expertise que moi.
Voilà. En tout cas, Les Brûlés, c'est un film. On a écouté tout à l'heure pas mal de titres, et là, on avait parlé de révolution, même à l'époque. C'est quand même aussi le cas de le dire. Les Brûlés, c'est aussi l'idée que, dans cette période, dans Manu, tu le disais, on avait vraiment des groupes. On parle des Touré Kounda et des Tournées Incroyables de Parisi Guinchor. On parle de cette Afrique, des groupes, des bands qui sont là.
Et puis des journalistes disposés, des gens comme Rémi Colpa, des gens comme Jean-François Bizot, actuel. Je veux dire, les gens qui lançaient les événements, était encore sur place et il y avait encore l'événementiel. Maintenant, le numérique a amené d'autres choses. On est dans une autre époque, mais l'époque est réellement où on se découvrait, en tout cas en partie, c'est cette époque-là.
Et les gens diront plus tard qu'il y aura eu A Hard Day's Night pour les Beatles, pour suivre les quatre garçons dans le vent de Liverpool, et puis il y aura eu Men on Run avec les Brûlés, pour montrer, voilà, cette fameuse épopée. Alors, je sais pas, mais bon, moi, le film des Brûlés, voilà, il m'inspire quand même un petit peu plus. Peut-être que je suis pas Liverpool. Bon. Mais je suis pas non plus d'Oslo, et j'ai pas non plus été au Mela Festivalen. Comme le doyen Manu, quand j'ai vu l'affiche, j'ai dit à Clara, bon, bah, dis donc, dis oui, il y a Oslo, bon, et c'est un con.
Ouais, assez étrange quand même.
Tout ce qui s'y passe quand même là-bas.
Assez étrange. Je faisais peut-être une vingtaine d'années que j'avais pas mis pied dans cette partie de l'Europe. Et puis c'était un festival que la mairie, la municipalité offrait au public. Hein. C'est un après-midi. Il y avait beaucoup de gens, il y avait les Manu Chao.
Oui, aussi.
Hein, dans le. Beaucoup de gens que je connaissais pas. Et puis il y avait un public, mais alors énorme. Et ces gens-là, le samedi soir, dis donc, c'est chaud là-bas. Hein.
C'est chaud dans la gorge.
C'est ce qu'on peut dire.
Pour la garganta, c'est chaud. Mais bon, c'est pas violent.
Mm-hmm.
Mais c'est quand
ça
même,
y
ça y va, quoi. Il y a la quantité. Hein, des... Ce sont des contrées qui nous interpellent. Et par là-bas aussi, bien évidemment, ben, on se dit toujours, mais quelle est la place de l'Afrique? Parce qu'on parle de la culture, on a beaucoup de nos frères de la Gambie qui ont déployé des arts, notamment la Kora, Djaba Kouyaté et beaucoup d'autres. On parle pas aussi de ceux qui s'y distinguent autrement sur le plan entrepreneurial. Et on est tombé, la dernière fois, quand on pensait à notre ami Jean-Pierre Mendy, on est tombé d'ailleurs sur une dame très volontaire qui dit « Mais vous parlez pas de ce que font les Africains au niveau de cette partie du monde. » Et elle est née en France, elle a grandi, elle est originaire de la Guinée-Bissau. Elle a décidé de jeter cette passerelle entre les pays scandinaves et l'Afrique noire. Elle s'appelle Madeleine Taylor Mendy. Bonjour Madeleine.
Bonjour.
Comment vas-tu?
Bah, très bien, merci.
Comment est-ce qu'on dirait en, bah, du côté, parce que, alors, en parlant langue scandinave alors, et autres,
aucune référence nous autres, hein.
Alors, comment dirait-on bonjour là où tu vis?
Alors, ça dépend du, au Danemark, on dirait Vodengode. Ça veut dire comment allez-vous?
Mm-hmm.
Et, voilà, et, ou hi, tout simplement hi, mais ça s'écrit différemment. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on apprend une langue scandinave, on a le phonétique, donc, et on a l'écrit. Donc, on apprend deux langues, tout simplement.
En même temps.
Le hi s'écrit E-H-E-J.
Non, mais ils font rien comme tout le monde, de toute
voilà,
façon.
Ouais. C'est très compliqué. Donc, Vodengode, c'est comment allez-vous? Mmh. Et c'est le bonjour danois, Gorgot.
Ben c'est que les nouvelles circulent pas spécialement. Vous êtes pas loin, vous êtes à 2 heures et quelques d'ici, mais les nouvelles n'arrivent pas. J'ai un petit neveu qui vit là-bas et qui est venu avec des copains. C'est comme ça que j'ai su qu'il y avait des jeunes africains là-dedans. Il y en a qui travaillent, il y en a qui sont étudiants. Ma foi, il y avait des Africains dans l'audience quand même.
Il y en a pas mal, alors surtout en Norvège. Vous avez à Bergen, vous étiez où à Bergen?
C'était à Oslo.
Ok. Ouais. Il y en a pas mal. Il y a une grosse communauté, comme vous l'avez souligné.
L'Afrique de l'Est, l'Australie, il y a beaucoup de gens qui venaient de l'Afrique australe. Hein.
Exactement. Notamment, il y a eu une forte immigration des pays de. Pardon, des pays de la Somalie.
C'est ça.
Voilà,
c'est ça,
Somalie.
Somalie. Il y avait des artistes somaliens d'ailleurs, que je connaissais pas, qui nous connaissent, mais nous on les connaît pas parce que bon, la Somalie c'est loin d'ici, hein.
Oui. Mais
je veux dire, culturellement parlant.
On se dit toujours comment y aller. Bon, je vais pas faire de la pub pour une compagnie en disant je prends Ryanair, j'ai trouvé ça joli, je m'y installe parce que du côté de Madeleine, alors Fashion Industry, on organise des défilés de mode, des galas, y compris pour le Festival de Cannes. Et puis tout à coup, on se dit ben il y a quelque chose du côté du Danemark.
Ah bah pas du Danemark en fait. Moi je travaillais au Danemark. Lorsque je suis arrivée, j'ai eu un gros problème de barrière de la langue. Donc je me suis dit qu'est-ce que
ça c'est sûr.
Voilà non, il était vraiment sérieux. Et mon anglais à l'époque, mon anglais était l'anglais Where is Brian? He's in the kitchen.
Choucroute, on dit.
Et apparemment il fallait qu'il y reste. J'ai lu dernièrement justement dans les affiches. Donc j'avais un anglais très basique. Donc j'avais du mal à m'exprimer, donc j'ai voulu continuer un petit peu ce que j'avais déjà commencé en France, c'est-à-dire dans la fashion industry, c'était très simple pour moi. J'ai aidé les sociétés scandinaves lors du festival de Cannes, j'avais créé le pavillon scandinave avec le design scandinave qui est quand même à ses côtés.
Une africaine qui crée le pavillon scandinave.
Oui, oui, alors c'était diamétralement opposé. Donc au départ, à la base, j'ai vraiment beaucoup, je me suis investie pour aider les sociétés scandinaves à se développer en France dans le domaine artistique. Plutôt mode et fashion.
Et ils vous ont laissé faire, ils ont eu confiance à vous. Ces sociétés-là vous ont laissé.
Ah oui, complètement. J'ai fait mes preuves. J'ai travaillé avec le grand Lars von Trier. D'ailleurs, au moment où il s'est fait.
C'est pas un inconnu, quand même.
Voilà, au moment où il s'est fait virer du Festival de Cannes, j'organisais son gala pour 800 personnes sur la plage en face du Martinez. Et il a fait une boulette. Enfin, une boulette. Il a volontairement parlé de je vais pas parler d'histoire qui fâche hein. Ouais. Et donc Lars von Trier était l'un de mes clients et du coup on s'est séparé. Il m'a tenté d'ailleurs un procès parce que il a osé venir me réclamer le budget.
Non, ça allait servir pour son prochain film.
Voilà. Et ben d'ailleurs après il a viré au porno. Hein,
oui, justement. Avec on avait vu d'autres choses avec
un penchant pratiquement naturel.
Bon, il est assez barré, mais il est très très aimé dans les pays scandinaves.
Bah, on peut comprendre le côté, ben, je vais pas dire chaud-froid de Lars von Trier, pas comme ça, mais en parlant de tempérament, il faut quand même sortir de tout ça et se dire, j'ai connu un pays, un univers, j'y reste. Oui. Quand vous décidez de créer finalement Scandinavrica Holding et Scandinavrica Group, en disant maintenant je vais faire le trait d'union, mais entre là-bas et l'Afrique.
Non, mais j'ai eu une question un jour comme ça, insolite, d'un client qui me dit, bon, bah, c'est sympa ce que vous faites, c'est bien, j'ai besoin d'avoir une expertise sur la noix de cajou. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée en Côte d'Ivoire.
Et même chez vous?
Oui, chez nous, mais c'est vrai que à cette époque, en Guinée, la stabilité politique n'était pas super, donc j'ai préféré aller en Côte d'Ivoire. C'était plus simple, quoique c'était un peu en guerre post-électorale, avec, donc on est parti au dîner avec un foulard sur la tête, c'était un peu rock'n'roll. Donc j'ai accompagné ce client dans le nord, au dîner, Ferke, et quoi encore, et puis c'est quelle ville encore dans le nord? Bon, j'ai oublié. Et on a fait comme ça, on a commencé à faire une expertise sur la noix de cajou. Donc, il faut savoir que la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, elle est première producteur de noix de cajou, avec, je pense, qu'ils sont à 840 000 tonnes par an. Et donc, c'est comme ça qu'on a commencé.
Il n'y a pas que le café, le cacao, il y a
ça. Ah non, la noix de cajou, mais c'est soudain, hein, ils sont passés premiers ces dernières années. Et c'est comme ça que j'ai réalisé que la Côte d'Ivoire, un pays qui devrait être très riche à la base, puisque ils sont producteurs. Mais ils exploitent pas, parce que le problème en fait de cette expertise, pour c'est qu'on s'est pays. On s'est aperçu qu'ils ne transformaient pas de manière locale.
Et ça ne crée pas d'emploi.
Il n'y a pas de processing, pas d'emploi et pas de valeur ajoutée. Donc du coup, la noix de cajou, elle coûte au kilo, écoutez bien, à peu près 50
centimes.
Attention,
parce qu'on va virer aux thématiques de Francis Laloupeau et nos auditeurs du dimanche vont tomber. Mais, pour résumer, parce qu'on sent l'économiste, enfin, celle qui a fait des études, mais il y a d'abord aussi une aventure humaine dans tout ça, parce que c'est un pari et c'est un lieu, en gros, vous avez défriché.
Oui, non, mais c'est surtout, là, c'était l'appel, on va l'appeler l'appel de l'Afrique. C'est à ce moment-là que l'appel de l'Afrique est vraiment, a commencé à retentir dans mon cœur. Parce que, je veux dire, comme nous autres, moi, je suis née en Europe, j'avais pas spécialement le désir et envie de retourner en Afrique. On était bien, on
gagnait de l'argent, on travaillait. Mais surtout qu'on entend toujours ce qui est négatif en général, on entend, hein, positif.
On va en vacances. On se dit, bon, c'est pas la top
stable. Pour le moment, hein. Mais là, maintenant, ça a changé.
Elle se défend tout de suite.
C'est le côté Manjago qui parle.
Arrête. Non mais et du coup là je me suis dit là c'est là où j'ai vraiment senti l'appel de l'Afrique. Je me suis dit que nous sommes cette première génération d'enfants de parents issus de l'immigration nés en Europe. Donc alors on a soit le choix de continuer tout simplement notre vie comme je le menais jusqu'à présent, ou de commencer à avoir un regard, mais un regard vraiment sérieux, sur ce qu'on pourra apporter comme expertise, comme compétence pour l'émergence de ce continent. Arrêter j'en avais marre de dire oui, mais bon, l'Afrique, toujours parler les mêmes propos qu'on retrouve souvent de panafricanistes, elle est exploitée, ceci. Oui. Non, voilà.
On mais est je, aussi, je retiens de ce que vous dites là, l'appel de l'Afrique.
Oui.
Ça, je retiens.
C'est-à-dire que l'appel de l'Afrique ne nécessite pas forcément de se mettre en marche. Bon, c'est une parenthèse, je peux pourrir un dimanche, mais parce que beaucoup se disent oui, mais c'est là la nouvelle ambition, et elle commence par ici, elle finit par ici, et finalement vous avez été plus loin. Mais cette connaissance, notamment la croissance des PME et autres, ça veut dire parfois aller voir les politiques, leur parler, les convaincre. C'est une casquette de qui est comment?
Alors c'est simple, parce que ce que je leur propose, puisque je propose des solutions, je me suis spécialisée dans les nouvelles technologies. Pour moi, aujourd'hui, l'or de l'Afrique, c'est premièrement, elle a changé un petit peu, hein, c'est plus la matière première. Pour moi, l'or de l'Afrique, elle est devenue humaine, la matière...
C'est l'africain.
Donc je voulais vraiment essayer d'apporter ce que l'Europe m'a donné, offert pour pouvoir essayer d'apporter aussi ma pierre à l'édifice. Et les technologies, pour moi, c'est le futur. C'est simple, parce que aujourd'hui en Afrique, on a à peu près 1 milliard de personnes qui sont porteurs de mobiles. On est passé de rien à directement le digital.
On a même dépassé beaucoup de quoi en Occident.
Mais il faut aussi rappeler que, et les chiffres ils sont clairs dans Financial Afrique, Bloomberg, les transactions journalières en Côte d'Ivoire représentent 25 millions d'euros.
Non, mais nos amis, les transferts d'argent l'ont bien connu.
Journalières, 17 milliards de francs CFA. 17 milliards de francs CFA. C'est 25 millions d'euros par jour avec un petit panier moyen.
Vous mettez ça en musique, ça fait beaucoup de musique. Hein.
En tout cas, parce que Madeleine en parle de manière passionnée, mais c'est bien, parce que dans un moment, on parlait des énergies, on avait parlé d'Axel Emmanuel, ouais. Baou avec l'instant chocolat.
C'est la génération.
C'est la génération qui veut faire autre chose. Mais vous avez parlé de manger, il faudrait peut-être qu'on passe d'ailleurs par la case pub. Avant de continuer, parce qu'on a aussi d'autres nouvelles de quelqu'un qui gratte et qui écrit, on va faire la pause pub et on se retrouve juste après.
La discothèque de Manu Dibango
sur Africa Radio.
Africa Radio 107.5 FM et www.africaradio.com. Si vous nous écoutez du côté de la Scandinavie, Madeleine Taylor Mendy nous parlait de son expérience dans Amanou. Alors, notice explicative, Madeleine, parce que beaucoup vont se dire c'est bien joli, mais vous faites tout ça. Où est-ce qu'on vous trouve sur la toile? Parce que vous êtes premier dans le cadre du numérique là-bas.
Alors, j'ai un site internet, bien sûr, donc j'en ai même deux. Alors, celui qui est le plus significatif, c'est celui de Red Flash. Donc, on propose des solutions qui sont des solutions pour les gouvernements. On aide les gouvernements en Afrique à faire un saut digital, tout simplement.
Et ils acceptent?
Alors, oui, aujourd'hui, puisqu'il y a une véritable volonté de la Banque mondiale et du FMI pour digitaliser. Bon, je ne sais pas si vous étiez informé.
Non, parce que je ne pourrais pas... C'est pour ça que je reviens à la ligne éditale. Madeleine a le même problème que moi. On en parlera dans Réussite. Mais pourquoi je rappelle les coordonnées? Parce que c'est une manière d'être tight et puis direct dans le sens où il faut qu'on soit utile en information.
Bien sûr,
parce que là...
Alors, donc, Red Flash, comme son nom l'indique, .se pour Suède.
Redflash.se pour Suède.
Voilà.
Et là, on y trouvera, parce qu'en plus, c'est la rentrée. Il y a beaucoup d'étudiantes et d'étudiants qui nous écoutent en Afrique et partout. Mais c'est quand même un sacré exemple, dans Emmanou, de parcours.
Oui, parce que tout le monde, c'est pas une évidence limpide. Hein. Quitter cette Europe-là pour l'autre Europe du Nord qui, bon, c'est l'Europe, mais c'est quand même à part. Hein.
C'est à part. Hein? Je le dis, ça m'a valu quand même le prix, j'en profite. Un prix, j'ai reçu un award pour la best start-up aux bâtisseurs de l'économie africaine, African Economy Builder 2018.
Et ça, c'est une vraie en plus.
Avec monsieur Aoré, quand même, c'était pas n'importe qui, avec Jean Kakou Diagou.
Le patron d'un
Et aussi, celui qui vient de recevoir le prix du mérite, qui est monsieur Jean-Luc Conan.
Tout à fait, de Cofina. Qu'on connaît bien. C'est bien parce que finalement, le prix BJKD aura lieu le 21 septembre prochain à Abidjan, initié par Bénédicte Janine Kakou Diagou. Mm-hmm. Elle devra avoir des échanges de Amanou avec Janine s'ils sont dans la même pièce.
Il faut connecter un peu.
On va faire une connexion.
Avec l'autre sœur, plutôt Madame
Avec Dominique.
Oui, voilà.
Voilà, on imagine. Alors, ça, c'était le propos de Madeleine Taylor Mendy. Mais vous savez, vous savez que cette ville de Paris, et notamment le 18e arrondissement, est une entre de temps en temps et pas que devant chez Jocelyn Armel, le bachelor. on croise des ressortissants et des originaires du Congo-Brazzaville tirés à quatre épingles.
Banamboka.
Ce phénomène de la SAP, cet art de vivre qui ne date pas que des années 60 ou 70, remonte à bien plus loin.
Ah oui, beaucoup plus loin.
Il a fallu la plume de quelqu'un qui est un aîné, qui m'a connu avec des cheveux et qui nous engueulait avec son petit frère quand on voulait aller danser au Nelson plutôt que d'aller à la fac, qui a décidé de se pencher là-dessus et de revenir sur cette histoire. Mmh. Il s'appelle Gilbert Goma, il est avec nous et il faut dire de Amanou qu'avec cet ouvrage qui est paru aux éditions Horus, on a enfin un éclairage parce que cet art de bien s'habiller au Congo-Brazzaville, eh bien finalement, je le disais, il tire son essence et son origine de beaucoup, beaucoup de choses dans les temps passés. Et c'est vraiment un ouvrage qui est pour moi une notice explicative qui remonte à loin avec des images
je
qui
vois des photos en noir et blanc là-bas qui m'interpellent.
Qui t'interpellent. Oh là là, oui. Et ça tombe bien
au
car...
Au bon temps de la colonisation.
Dit-il. Car Gilbert Goma est avec nous dans ce studio. Bonjour, cher aîné.
Oui, bonjour, Robert.
Bon, grand frère, je vais pas la faire à l'envers parce que c'est un peu bizarre. Si vous m'avez dit que j'allais t'interviewer un jour, ça allait être une bonne blague. Mais pourquoi tu m'as attendu autant de temps alors que c'est vrai que tu nous en parlais. Mm-hmm. Là, nous, on voulait juste aller rue Mellet et puis... faire les petits princes, tu disais, les amis, c'est pas seulement ça, il y a autre chose, il y a une histoire.
Absolument, mais écoutez, j'ai voulu, pour l'instant, ce livre, je l'ai écrit pour plusieurs raisons. La principale, c'est surtout, pour mieux comprendre les phénomènes, il faut aussi repartir
à la base,
voilà. Donc généralement, les sapeurs eux-mêmes, quand ils parlent de la SAP, ils disent toujours que non... nos parents imitaient les colons, alors que moi j'ai dit non, c'est pas vrai. Les parents n'imitaient pas les colons, je suis reparti très très loin, je suis reparti depuis le royaume du Congo. Le royaume du Congo, et j'ai convoqué donc les témoignages des premiers missionnaires qui sont arrivés dans le royaume du Congo au 15e siècle, et qui ont écrit sur l'art du tissage, le vêtement, Et ces missionnaires expliquaient, étaient émerveillés de voir comment est-ce que les gens étaient habillés. Vous savez que à partir du 15e siècle, c'est la période de la Renaissance en Europe. C'est l'époque où il y a eu une sorte d'effervescence intellectuelle, artistique en Italie et partout en Europe. Et c'est là où c'est la mode prend de l'ascension. Et ces gens-là qui partent en Afrique pensent que là-bas, c'est vraiment des sauvages en quelque sorte. Et quand ils arrivent, ils voient des gens bien habillés. Ils sont
qui pouvait faire tomber des choses ici, hein, parce qu'il y a l'ordre circulaire.
Mais là-dedans,
bourse ne pouvait tomber
absolument
grâce aux Africains.
Et il y a même des passages où même ils disent qu'ils sont mieux habillés que nous. Ils ont des damas, ils ont tout. Donc voilà, donc moi j'ai essayé de ramener ça au présent pour que les gens sachent que l'habillement dans ces pays-là n'est pas récent. Que ça vient de longtemps, mais maintenant, il s'est trouvé que après la colonisation, après la conférence de Berlin en 1885,
voilà alors, quand les pays sont
émiettés, en ce moment-là, les Congolais s'adaptent. C'est pour ça que j'ai utilisé le concept d'adaptation. Ils s'adaptent au style européen, parce qu'en ce moment-là, ils ne peuvent plus fabriquer eux-mêmes leurs vêtements. Ils sont obligés de s'adapter. Et donc cette adaptation, justement, c'est aujourd'hui, c'est ce que l'on voit, les jeunes qui continuent, qui s'habillent. Mais il y a une sorte de refoulé, si on veut parler en termes de la psychanalyse, c'est-à-dire qu'il y a un refoulé que les gens s'habillent depuis toujours, et c'est de génération en génération que les gens s'habillent. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, je ne m'arrête pas là, je me dis... C'est vrai que les gens s'habillent, mais ça suffit pas. Il faudrait faire de sorte que ces jeunes qui s'habillent, cet habillement puisse impacter l'économie de ces pays-là.
Absolument.
Parce que s'habiller pour s'habiller, ça ne sert à rien. Il faudrait, vous voyez,
s'habiller pour parader.
Voilà.
Encore faut-il connaître l'historique.
Voilà, les masses d'argent qu'ils déploient pour acheter ces vêtements qui coûtent cher, c'est beaucoup d'argent pour rien. Alors que ils peuvent, ça c'est pour revenir sur le problème que disait notre sœur, la transformation des matières premières. Moi je considère l'habillement comme une matière première et qu'il faut transformer sur place.
Et je fais une parenthèse, Mamouskar, ça n'a rien à voir. Je vois une date ici, 1908. En fait, c'est la date de naissance de mon père, quoi.
Bah, 1908. Dont on voit certaines photos, d'ailleurs.
Oui, absolument. Mais vous savez, par exemple, à Luango, à Pointe-Noire, du côté de Pointe-Noire, en 1830, Il y a un couturier qu'on appelait Lafayette, un Français qui arrive là-bas à Luango et qui monte des ateliers de couture. Et dans cette contrée, il va y avoir une déformation du nom Fayette, Lafayette. Et chez les Villiers, donc le Pointe-Noire, ils vont appeler tous les couturiers Fayette.
Fayette, tout à fait.
Voilà. Fayette veut dire tailleur. Et qui fait que dans ces familles-là, issues des lignées des tailleurs, ils s'appellent Fayette jusqu'à maintenant.
Et c'est incroyable parce que quand on regarde, et ça c'était les déformations, on a parlé des termes français ou occidentaux qui étaient changés, ces tailleurs à Luango ou alors ailleurs, quand on les voit, il y a dans tous les albums de famille, quand on regarde, un endroit où les personnes confectionnaient.
Absolument.
Et confectionnaient, où on avait aussi la manière, parce que beaucoup des fois d'occidentaux sont surpris de la façon dont le soin de la coupe, le détail est exploité. Mais pour revenir sur le côté industriel de la chose, on voit bien aujourd'hui des personnes, notamment au Burkina Faso, parler de cette économie autour du vêtement. Absolument. On a parlé de Patéo, de Sissa-Moïse, qui parle de la fabrication, du nombre d'emplois que ça génère. Mais cette SAP et Congo-Brazzaville l'air de bien s'habiller. Il faut le dire clairement, Gilbert Gomel aussi, victime à un moment donné de ce qu'on peut voir immédiatement dans les rues de Paris ou de Brazzaville. C'est-à-dire que est-ce que la fantaisie dans la mise en avant du vêtement, dans les défilés, l'exubérance, à un moment donné, n'a pas desservi, au point que les gens se sont dit, celui-là, il parade, il claque des pieds par terre, il n'a rien à faire.
Mais c'est ce que j'explique dans mon livre, c'est-à-dire que les gouvernements successifs qu'il y a eu au Congo-Brazzaville depuis 60 n'ont jamais réfléchi sur ce mouvement. Ils n'ont jamais saisi la quintessence de ça. Les sapeurs ont toujours été, vilipendés. Ils ont été vilipendés, c'est des gens qui étaient marginalisés, considérés comme des délinquants, alors que c'est pas des délinquants.
Par rapport à l'origine de cet
argent. Voilà, absolument. Alors qu'on pouvait rendre ça intelligent, on pouvait rendre l'habillement intelligent. Se dire que nous avons des populations, des jeunes qui aiment s'habiller, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il faudrait pas créer, mettre en avant, par exemple, des stylistes, des modélistes?
Oui, parce qu'on n'entend pas leur nom, notamment en Afrique centrale. Alors on sait que Ludovic Kamgué avec Stradels a créé une marque, mais c'est beaucoup moins connu que ce qu'on peut entendre d'Ozal Boateng au Ghana, ou d'autres couturiers comme Yoni en Côte d'Ivoire ou ailleurs.
Mais vous voyez par exemple le Brésil, il y a la samba au Brésil.
Oui.
Mais on n'a jamais pris les gens qui dansent la samba comme des voyous. On a intégré la samba dans l'économie culturelle. Et la SAP aussi,
oui,
c'est pareil.
Tout ça veut dire que en fait, il faut revoir un tout petit peu ce qu'on enseigne. L'enseignement en Afrique, enfin peut-être pas dans toute l'Afrique, mais mettons déjà dans l'Afrique francophone, qu'est-ce qu'on enseigne exactement? Est-ce qu'on va enseigner Napoléon tout le temps, ou bien on va enseigner ce qui se passe, l'histoire de l'Afrique aux Africains?
Absolument.
Parce que les jeunes ne connaissent pas, autant ils connaissent 1515 Marignan, je sais pas quoi, François Ier, et tout ça c'est bien, il n'y a pas de problème. Mais nous autres, on est où dans cette histoire?
Manu, vous savez que moi j'ai fait une conférence il y a pas longtemps où il y avait des jeunes qui sont nés ici. Quand je leur ai dit que leurs ancêtres fabriquaient des vêtements, ils étaient étonnés. Ah bon?
Bah ouais.
Ils savent pas.
Ouais, parce qu'ils ont toujours l'image.
Alors j'ai dit depuis le 15e siècle, ils disent ah bon? Comment vous pouvez dire ça sur la base de quoi?
L'histoire.
Ils savent pas.
L'histoire.
Ils savent pas.
Alors piqûre de rappel, Serge Billot aurait pu le dire. Dans les temps passés, notamment à la cour de Louis XIV, l'apparat ou l'élégance est un argument et voire utilisé en puissance politique, parce que le rayonnement de la France passait par là. Mmh. Et il y a un passage que Gilbert Gomard rappelle d'ailleurs dans cet ouvrage, dans les sources, le traité de la vie élégante d'Honoré de Balzac.
Absolument.
Ça veut dire quelque part qu'il faut en faire quelque chose. L'ouvrage en tout cas est à lire, à découvrir et à voir, parce qu'il y a des photos de Amanou, art de vivre depuis le royaume du Congo, et c'est la SAP au Congo-Brazzaville. Il défile chaque 15 août, sous les yeux d'ailleurs des plus hautes autorités du pays, mais ce qui concerne les métiers qu'il y a autour, c'est à réfléchir.
Non, la notice explicative, on l'a pas. Donc il y a une réflexion, en tout cas pour tout le ministère des cultures dans nos pays. Il faut peut-être revoir la copie et voir ce qu'on peut enseigner, parce que quand tu connais pas ton passé, mon gars, tu es là...
T'es un peu légume quelque c'est part. Vrai, tu leur en as envoyé des exemplaires d'ailleurs au ministre.
J'en ai envoyé à Brazza, c'est vendu en Côte d'Ivoire, au Cameroun.
On en trouve ici au fait.
Oui, parce que aussi au Cameroun, il y a maintenant il y a un club des sapeurs. D'abord récemment, les sapeurs congolais ont intervenu parce que les sapeurs Douala, ils ont voulu se faire enregistrer au niveau de la préfecture et la préfecture a refusé. Donc ils ont demandé un secours de sapeurs congolais en France. Ils sont allés à l'ambassade. Ils ont essayé de rencontrer le chef de la culturel, ici des affaires culturelles. Il semblerait que les choses sont en train de se mettre en place.
C'est-à-dire dépassons le stade de la parade, du défilé dans les musées ou aéroports et allons plus loin dans l'industrie ou la création d'emplois absolument. Qui peut s'en suivre.
Absolument.
Madeleine Taylor-Mendy pourrait être d'ailleurs un appui à ce niveau-là. Ah, oui. En tout cas, c'est un plaisir d'avoir eu des Scandinaves, d'avoir eu la Digoma. Et l'inspecteur Makossa doit amener nous, parce que
Scandine africaine.
Ouais. Ah, ça, c'est pas mal.
On a un trio, là, aujourd'hui, dans la créativité.
Trio magique.
C'est une autre musique.
Dans une autre musique. Alors, à la technique, Hugo et François nous disent qu'on a un peu de temps. On voulait penser à une grande dame, Doyen Manou, qui a tiré sa révérence. C'était un chant qui a retenti le 28 août dernier sur toutes les bandes FM.
Ça va pas comme ça.
Et oui, il s'agit de Nancy Holloway, cette chanteuse américaine qui s'est installée en France tard des années yéyé. Et tu le dis, Doyen Manou, les gens ont oublié très vite qu'elle était aussi actrice et qu'on l'a vue dans un film.
Eh oui, c'est quelqu'un que j'ai connu personnellement pendant longtemps parce que, en fait, à cette époque-là, d'ailleurs, elle a chanté, elle a fait des duos avec Nino Ferrer. Et moi, j'étais l'organiste de Nino Ferrer, donc on faisait beaucoup de tournées. En France, avec Lady Michel et Sylvie Vartan, elle faisait partie des yéyés, la première vague dont des yéyés, Claude François et tout ça. Elle est arrivée ici, elle s'est implantée au début des années 60, hein. Comme Joséphine Baker, elle a trouvé, comme Sidney Bechet, il y a quelques artistes américains, Kenny Clarke, qui se sont installés en France et qui ont fait beaucoup toute leur carrière, parce que sa carrière c'est ici, c'est pas aux États-Unis. Il y a certains d'entre eux qui ont émergé ici et puis à un moment donné on n'entendait plus parler parce que la vie elle est comme ça, et surtout parce qu'elle a eu un problème terrible. Elle avait une petite fille
qui est morte noyée,
voilà, qui est morte dans une piscine. Alors ça l'a marqué, du coup c'était plus la même Nancy, mais c'était une fille pleine de joie, famille nombreuse là-bas. Elle a trouvé son point, son zénith était en France.
Et c'est vrai que c'est Nancy Brown qui a vu le jour à Cleveland, dans l'Ohio, en 1932, a parlé elle-même de sa vie et de son parcours. J'étais un peu comme une cigale qui chantait en toute insouciance. J'ai commis de graves erreurs, d'où cette carrière en dents de scie. Il reste la magie de la voix, il reste aussi son rôle dans Le Gentleman de Cocody, le film de Christian Jacques, avec Jean Marais.
Dans ce film-là, d'ailleurs, la musique, le cosmos de notre...
Fax Clark
était aussi de la partie.
Et ça veut dire justement que cette Afrique rayonne et au-delà du temps. On voulait avoir cette pensée pour elle et tous ceux qui s'en souviennent. Elle était réapparue dans la tournée Âge tendre et Tête de bois avec les autres idoles.
Au début des années 2000.
Elle avait fait un beau revival et puis que de tournées, le Blue Note et puis les tournées en Allemagne et au Liban. Tant que tu me dis d'ailleurs que Beyrouth de l'époque, tu m'avais dit Tito, c'était pas le Beyrouth d'aujourd'hui.
Ah non, ça n'a rien à voir, hein, parce que ma défunte épouse, dans la première partie de sa vie, elle était danseuse dans des ballets, et elles allaient souvent faire, en Belgique, elles partent de la Belgique pour aller dans les caves du roi là-bas au Liban. Il y avait une vie culturelle très, très, très éclatée, très ouverte. Il n'y avait pas encore la religion qui prenait un peu une partie qu'elle ne devrait pas prendre.
Pour le dire comme ça.
Voilà, on peut le dire comme ça. Et donc, tout était ouvert. C'était une ville, c'était un pays ouvert aux choses culturelles.
Et d'ailleurs, tu le disais avec des très grandes voix sur lesquelles nous, on s'était déjà pensé dans notre émission, notamment la chanteuse Férouz, à qui on avait consacré un numéro. Alors, ça avait surpris et plu à beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent en Afrique ou ailleurs, qu'on dit, tiens, Férouz, mais il faut le dire et le rappeler, peut-être qu'on rejouera de ses titres, de Amanou. C'est une très grande voix, après Oum Kalsoum, peut-être une des plus grandes voix.
Oui, mais d'ailleurs, à un moment donné, on va consacrer un peu une émission aux grandes voix qui viennent de l'autre côté, pas forcément de l'Afrique, mais des pays voisins.
L'Orient, l'Orient, voilà. Eh bien c'est avec ce temps va pas comme ça, mais que sur le coup, nous on va s'en aller. Ça date de 1963, mais ça n'a pas pris une ride, et puis c'est la reprise du fameux Don't Make Me Over, qui est devenu un tube signé de Dionne Warwick, en remerciant tous nos invités, l'Inspecta qui nous a apporté, en tout cas ce dimanche,
sur les brûlés,
éclairage sur les brûlés, à Gilbert Gomand, on rappelle le livre La Sape au Congo-Brazzaville, aux éditions Horus, et à Madeleine Taylor Mendy, qui est venue nous voir. J'avais envie de lui dire Oulef au début, mais j'ai raté. Et elle répondrait quoi ?
Ayus.
Ah voilà, et c'est comme ça. Et c'est un coach Badiane d'ailleurs. Lamine Badiane, on lui dit Oulef, puisqu'on le retrouvera demain.
Oui, tiens, on lui donne le bonjour. Il y a longtemps qu'on ne l'a pas eu, celui-là. Tiens. Il va falloir l'opérer un jour d'ailleurs.
Oui, alors tu as entendu coach Lamine Badiane. Voilà, Doyen Manou, pour aujourd'hui.
Donc pour aujourd'hui, ce sera la même chose avec toujours des découvertes, des choses inconnues de vous. Et puis qu'on aura plaisir à vous présenter, non seulement pour le plaisir des oreilles musicalement, mais il y a d'autres sons qui arrivent sur d'autres branches de l'Afrique qui gagnent, n'est-ce pas ?
Et que nous aimons.
Et que nous aimons. Et sur ce, on vous donne rendez-vous, même heure, même fréquence, et comme d'habitude.
Sur Africa Radio.